Imaginons un instant le scénario suivant. Une grande entreprise investit des millions, vraiment des millions, dans une nouvelle technologie ultra puissante.
Ouais, le genre d'outil censé redéfinir absolument chaque poste de travail. On voit très bien de quoi on parle.
Exactement. Et la réaction logique, enfin presque instinctive pour n'importe quelle direction, ce serait d'imposer l'utilisation de cet outil tout de suite.
C'est clair. Faut rentabiliser cet investissement colossal le plus vite possible.
Eh bien, figure-toi que quand le géant de l'énergie Italgaz a introduit l'intelligence artificielle à grande échelle, ils ont fait l'impensable.
Attends, ne me dis pas qu'ils l'ont gardé pour eux.
Non. Ils ont réuni leurs équipes et leur ont annoncé qu'absolument personne n'était obligé de l'utiliser.
Ah ouais, c'est l'inverse total de la culture de la précipitation qui domine le monde des affaires d'habitude.
C'est fou, hein? On s'attend toujours à des directives top-down imposées du jour au lendemain.
Et pourtant, l'approche qu'ils ont choisie suggère que pour intégrer une technologie qui va super vite, le secret, paradoxalement, ce serait de ralentir.
C'est exactement le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. On a plongé dans plusieurs analyses et plus particulièrement dans une table ronde vraiment fascinante qui s'appelle House of Engagement.
Ouais, un panel organisé par l'agence de design Logotel avec notamment une responsable de la transformation de chez Italgas.
L'objectif de notre analyse, du coup, c'est de décortiquer ce qu'ils appellent l'engagement comme activation.
C'est un super terme, l'activation.
En gros, on va voir comment de grandes organisations réussissent à transformer un employé passif en un véritable acteur du changement.
Et sans le forcer, c'est ça qui est fort. Parce qu'il y a un gouffre entre dire « voici un nouvel outil » et voir les gens se l'approprier d'eux-mêmes.
Tout à fait. Et l'activation, d'après les sources, c'est vraiment cette étincelle, le moment où l'inertie se brise.
Et pour que cette étincelle se produise, il y a trois piliers très spécifiques qui doivent absolument coexister.
Le premier de ces piliers, c'est la motivation. Et on ne parle pas de grandes messes d'entreprise avec des beaux discours, hein.
Non, là, on parle d'intérêt personnel pur et dur. Faut que l'employé se dise en quoi cette IA va m'éviter de faire ce tableau Excel affreux que je déteste faire le vendredi après-midi.
C'est ça. Si l'intérêt personnel n'est pas évident, la motivation reste à zéro.
Ensuite, le deuxième pilier, et c'est souvent le plus galère à bâtir, c'est le contexte.
Le contexte, c'est-à-dire ?
En fait, la table ronde parle de l'architecture de la sécurité psychologique au bureau.
Ah oui, créer un environnement où l'erreur est permise.
Exactement. Une erreur documentée, encadrée, mais qui sert à apprendre. Et enfin, le troisième pilier, c'est le déclencheur, l'étincelle dont tu parlais.
Donc des trucs comme des hackathons internes, par exemple.
Ouais, des défis sur un ou deux jours où on part de zéro pour créer une solution.
J'aime beaucoup une analogie qui m'est venue en lisant ça. C'est comme faire un feu de camp.
Un feu de camp.
Vas-y, développe.
La motivation, c'est le bois. Faut de bonnes bûches, un vrai intérêt pour que ça prenne. Le déclencheur, le hackathon, c'est l'allumette.
D'accord, je vois. Et le contexte, alors ? Le contexte, cette fameuse sécurité psychologique, ce sont les pierres qu'on place autour du feu. Si on ne met pas ces pierres avant, on a peur de brûler la forêt, donc on garde l'allumette dans la poche.
C'est une super image, tiens. Et ça explique parfaitement pourquoi ce contexte prend autant de temps à se construire. On ne peut pas juste décréter la confiance.
Non, ça demande ce que les concepteurs résument en trois mots. L'attention, l'intention et le courage.
Le courage managérial de laisser les gens tâtonner, ouais. Mais d'ailleurs, le mot « courage » vient du cœur, étymologiquement parlant.
Mettre les gens à l'aise avec le cœur. Mais là, il y a un truc qui me chiffonne.
Quoi donc ?
Laisser les gens tâtonner et jouer librement avec une intelligence artificielle générative. Pour un département informatique, c'est juste un cauchemar absolu.
Ah c'est sûr. T'imagines les fuites de données confidentielles ou les bugs en cascade ?
Voilà. Alors, comment ils ont fait pour éviter de mettre le feu à la forêt, justement ?
Eh bien, c'est là que le cas d'Italgas devient brillant. Pour que ça marche, ils ont dû opérer un double mouvement, un truc à la fois vertical et horizontal.
Vertical, ça veut dire le fameux top-down.
Ouais, la direction Eliti pose les règles de cybersécurité, les filtres éthiques, bref, le cadre strict. Les pierres autour du feu.
Sauf que si on n'a que des règles strictes, on étouffe l'innovation.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut un mouvement bottom-up, horizontal, où l'énergie vient du terrain.
Et pour forcer ces deux mondes à se parler, les sources montrent qu'ils ont littéralement explosé leur silo en interne.
C'est une refonte totale de l'entreprise. Le département des ressources humaines a même été rebaptisé.
Oui, PIT, People, Innovation and Transformation. Et le truc dingue, c'est qu'ils travaillent désormais directement au sein de la branche technologique Blue Digit.
En gros, les psys et les experts RH bossent main dans la main avec les développeurs.
C'est génial. Donc l'ingénieur code l'outil et l'expert RH regarde tout de suite si ça va stresser ou motiver l'utilisateur.
C'est exactement ça. L'IT sécurise les données et la nouvelle équipe s'assure que l'outil est vraiment centré sur l'humain. Ils appellent ça la maison de l'engagement.
Et ils ont créé des environnements ultra sécurisés pour que les employés puissent expérimenter. Des trailers, c'est bien ça?
Ouais, les trailers. Comme pour une bande-annonce de film. C'est un bac à sable numérique fermé.
Donc l'employé peut tester ses pires idées avec l'IA. Si ça plante, ça reste dans le trailer et ça fait pas crasher les serveurs de la boîte.
C'est brillant. Ça allie la rigueur informatique avec l'empathie envers l'humain.
Mais même avec ce cadre parfait, on se heurte à un vrai problème, surtout avec des outils comme Microsoft Copilot.
Le côté solitaire de l'IA.
Exactement. Par essence, utiliser une IA, c'est une personne toute seule devant son écran. Comment tu transformes ce tête-à-tête avec une machine en un mouvement collectif?
Eh bien, chez Italgas, ils ont lancé le programme I'm Ready. Et on en revient au volontariat absolu.
On ne force personne.
Zéro obligation. Le simple fait de dire « c'est optionnel », ça désamorce direct la résistance psychologique du genre « oh non, encore une nouvelle tâche ».
D'accord, mais si tu forces personne, faut bien leur donner super envie d'y aller d'eux-mêmes.
Et c'est là qu'ils s'inspirent de la télé, avec une approche édutainnement.
L'éducation par le divertissement.
On Masterchef ou X-Factor 1.
Attends, Masterchef GIA, genre vous avez 30 minutes pour générer un tableau avec la base de données?
C'est ça. Le premier qui trouve le bon prompt gagne le défi.
Et pour préciser, le prompt, c'est la petite phrase, l'instruction qu'on tape pour donner un ordre à l'IA. C'est un peu la formule magique.
Tout à fait. Et l'idée, c'est pas juste de réussir dans son coin, c'est de partager son meilleur prompt avec ses collègues après.
Ça change tout. Ça transforme des collègues de bureau en petits influenceurs internes.
C'est très vrai. Mais des influenceurs utiles, tu vois. Ça rassure tout le monde.
C'est clair que si la direction envoie un mail pour dire « l'IA, c'est facile », personne n'y croit.
Mais si c'est ton collègue de bureau, celui qui galère avec la photocopieuse, qui arrive en s'amusant.
Bah, tu te dis direct « s'il le fait, moi aussi, je peux le faire ».
Voilà. L'apprentissage par les pairs, c'est la meilleure arme contre la peur de la nouveauté. L'outil solitaire devient un vrai ciment pour l'équipe.
C'est super intéressant, mais j'imagine qu'on ne peut pas juste copier-coller cette méthode partout.
Ah non, surtout pas de plug and play. Ça demande vraiment du sur-mesure.
C'est ce que soulignent les sources. Ils font des focus groupes pour s'adapter à chaque équipe.
Bah oui, tu vas pas donner le même défi ludique à un développeur web et à quelqu'un du marketing.
L'anecdote qui m'a le plus marqué là-dessus, c'est celle de l'équipe juridique.
Ah oui, l'équipe Ligo. D'habitude, c'est les plus frileux avec le partage de données.
Et pourtant, ils s'y sont tellement mis qu'ils ont toqué à la porte de la direction pour créer leur propre webinaire.
Les fameux AI for Legal Talk, ouais, avec leur propre jargon.
Quand une équipe fait ça d'elle-même, tu sais que ton activation a marché à 100%.
Mais pour arriver à ce niveau-là, ils utilisent une technique mentale très particulière avec les dirigeants. L'ingénierie inversée.
Ah oui, le reverse engineering. C'est un peu contre-intuitif comme truc.
C'est carrément un pré-mortem. Au lieu de rêver à une réussite, tu enfermes la direction dans une salle et tu leur dis « On est en 2030, le projet IA est un échec monumental. Pourquoi ?»
C'est génial. Ça court-circuite le biais d'optimisure.
Exactement. Et là, les vrais problèmes sortent. Ah bah, on n'a pas assez formé les gens. On a mis trop de pression.
Et ça leur permet de développer ce que les sources appellent une vraie empathie organisationnelle.
C'est-à-dire savoir lire la météo interne de l'entreprise. Savoir comment vont les équipes.
C'est là qu'ils donnent l'exemple de l'équipe en Grèce.
Ah oui, cet exemple est très parlant. L'équipe grecque était sous l'eau. Complètement surchargée de travail.
Et n'importe quel siège social normal aurait juste forcé le lancement du programme pour respecter les dates, non?
Bah ouais, pour que le calendrier mondial soit beau sur le papier.
C'est comme essayer de faire une grosse mise à jour sur un ordi qui rame déjà. Il va juste planter.
Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout suspendu en Grèce. Ils ont attendu la fin de l'été.
C'est dingue, parce que ne rien faire, c'est parfois la décision la plus dure à prendre pour un manager.
Surtout quand on te demande de justifier le fameux ROI, le retour sur investissement.
D'ailleurs, la table ronde propose de changer ce terme. On passe du retour sur investissement au retour sur impact.
Parce qu'on s'en fiche un peu de savoir que 1000 personnes se sont connectées si derrière ça change rien à leur façon de bosser.
Ce qu'on veut voir, c'est si les habitudes ont vraiment changé. Est-ce que les gens collaborent mieux? Est-ce qu'ils gagnent du temps pour faire des choses plus stratégiques?
C'est ça. Sauf que ce changement de métrique met le doigt sur un gros paradoxe.
Le fait qu'on veut tout faire trop vite?
Ouais, la culture de la vitesse. L'IA avance à une vitesse folle. Si tu ralentis pour faire des focus groupes et des bacs à sable, tu risques pas de te faire bouffer par la concurrence.
Bah, c'est la grande peur. Mais ce que dit l'analyse, c'est que la précipitation, c'est une fausse bonne idée.
Totalement. Si tu forces l'adoption, les gens vont utiliser des outils dans ton dos, le fameux Shadow IT, ou ils vont juste rejeter le truc.
Et ça coûte des millions. La vraie vitesse, en fin de compte, elle s'atteint que par la confiance.
Et la confiance, ça prend du temps à se bâtir. Mais une fois que tes pierres sont bien placées autour du feu, l'adoption des nouvelles technologies se fait de manière hyper fluide.
Parce que les gens n'ont plus peur de changer. C'est vraiment la grande leçon de cette analyse de Logotel et Italgas.
Ouais, l'activation, ça s'envoie pas par mail un lundi matin. Ça se cultive.
Et ça nous amène à une réflexion finale que je trouve assez savoureuse.
Dis-moi.
On entend partout que l'intelligence artificielle va déshumaniser le monde du travail, que ça va nous transformer en robots.
C'est le grand discours médiatique, ouais.
Et pourtant, ce qu'on découvre avec ce cas d'étude, c'est exactement l'inverse.
En fait, vu que cette technologie est ultra rapide et très solitaire, elle force les entreprises à remettre l'humain au centre de tout.
Exactement. Pour que l'IA fonctionne en entreprise, on est obligé de reparler de sécurité psychologique, de confiance, d'empathie.
C'est ironique, non? Le plus grand héritage de l'IA au travail, ce sera peut-être pas les algorithmes, mais le retour en force du lien social.
C'est une super note pour terminer. Et on espère que cette exploration inspirera de nouvelles façons de créer cette étincelle de confiance. C'est ce qui conclut notre analyse du jour.
Merci de l'avoir suivi avec nous.
À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante au cœur des grandes transformations.